Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission de Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, content d'être avec vous pour redécouvrir la Bible à partir de ces récits insolites. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vraiment être dans l'insolite avec quelque chose qui est comme une anecdote savoureuse qui est restée dans le texte, puis on se pose un peu la question « Pourquoi? » Avez-vous déjà lu le récit de la Passion de Jésus selon l'Évangile de Marc? Si oui, avez-vous remarqué au passage un nuvite qui est passé par là? Un homme qui part à courir tout nu pour ne pas se faire attraper par les Romains. On va essayer de comprendre qui est cet homme et surtout qu'est-ce qu'il fait dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a une anecdote aussi insolite dans notre texte? Et on a reçu une excellente question d'un auditeur sur les miracles de Jésus. On va s'y attarder un petit peu plus longtemps qu'à l'habitude. Est-ce que vous, vous y croyez aux miracles de Jésus? Et on en parle tout de suite après notre thème musical. J'aime bien commencer, les auditeurs le savent, avec une question ou un commentaire que vous nous envoyez. Cette semaine, j'ai reçu une excellente question de René qui écrit « Quelques-uns des récits que vous abordez parlent de miracles de Jésus. Que pensez-vous réellement de ces miracles? Et est-ce qu'il y a encore des miracles aujourd'hui? » Bon, pour vous répondre, René, je vois déjà que la façon dont vous utilisez le mot « réellement », ça me fait penser que vous avez peut-être des doutes sur la possibilité même du miracle. Puis je peux le comprendre, parce qu'à notre époque où l'explication scientifique a pris le pas sur les anciennes formes d'explication religieuse du monde, c'est effectivement difficile de croire que tout est merveilleux et tous les phénomènes un peu particuliers qui est rapporté dans le texte de la Bible. Bon, premièrement, essayons de comprendre c'est quoi le sens du mot « miracle ». Si vous faites une petite recherche Internet rapide sur Wikipédia, plusieurs définitions, mais une que je trouvais intéressante, c'est un fait prodigieux d'ordre surnaturel survenant dans un contexte religieux qui manifeste une intervention spéciale et gratuite de Dieu, adressant aux humains un signe sensible de sa présence dans le monde. Alors ça, c'est une définition. Au fil des temps, le mot « miracle » a pris un sens qui est plus courant, plus habituel. Alors, le miracle, aujourd'hui, ça peut être utilisé pour décrire quelque chose de très anodin, une action qui est utile, puis qui est relativement difficile, mais qui n'a pas nécessairement besoin d'un côté religieux. Qu'en est-il des évangiles? Si on retourne dans le texte de la Bible, comment est-ce qu'on utilise le mot miracle? Bien, on peut remarquer que, par exemple, dans l'évangile de Jean, lui, il ne va pas employer le mot miracle. Il va plutôt utiliser un mot qu'on pourrait traduire par signe. Et les signes, ils prouvent rien par eux-mêmes. Ils sont là pour éveiller la foi, pour interroger. Une interrogation qui va susciter un questionnement dans le cœur de ceux qui sont témoins de ça et qui pourrait mener à la foi. La soif du merveilleux, le désir de voir des miracles encore plus convaincants, ben, ça ne semble pas intéresser Jésus. D'ailleurs, quand un personnage demande à Jésus d'en faire, spontanément, Jésus préfère ne pas le faire du tout, au contraire. Les signes ou les autres gestes prouvent rien à son propos. C'est comme des pistes qui ouvrent, qui laissent libres. Ceux qui bénéficient d'une guérison, par exemple, sont libres de croire ou de ne pas croire après. Et vous savez, la guérison puis le miracle, c'est pas la même chose. C'est pas nécessairement un miracle, une guérison. Un extrait que je trouve intéressant, c'est quand Jésus va dans son coin de pays et qu'il n'est pas bien reçu, qu'on ne croit pas en lui, qu'on le chasse, bien, Marc va dire qu'il ne fera pas de miracle là, seulement quelques guérisons. Ce n'est pas anodin. Ça nous dit que pour que les guérisons deviennent un miracle, il faut qu'elles mènent à la foi, qu'il y ait une reconnaissance d'une action de Dieu là-dedans. Sinon, ça reste simplement une guérison. La question que vous m'avez posée au départ me demandait qu'est-ce que je pense réellement des récits de miracles. En ce qui me concerne, moi je vis au 21e siècle, j'ai fait un DEC en sciences, et l'approche scientifique qui décrit le monde d'aujourd'hui et l'évolution qui s'est faite depuis plusieurs années, je trouve ça important et intéressant, on ne peut pas passer à côté de ça. Et, bon, il nous fait connaître l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il explique les phénomènes de la nature sans nécessairement avoir besoin de Dieu. Et aujourd'hui, les sciences offrent des explications qui sont convaincantes, mais ça n'empêche pas de continuer à poser la question du sens. C'est quoi le sens de notre monde dans lequel on habite? Même si la science nous explique toutes sortes de choses et nous permet de le comprendre, de le découvrir, la question du sens reste entière. Puis à l'époque où on a écrit le Nouveau Testament, on utilisait souvent Dieu pour expliquer tout ce qu'on n'était pas capable d'expliquer parce qu'on n'avait pas justement toutes les avancées scientifiques qu'on a aujourd'hui. Alors pour expliquer le monde, on avait recours à Dieu. Et on le faisait en racontant toutes sortes d'histoires. Souvent, il y avait un caractère exceptionnel, merveilleux, qui venait enrober des récits. Par exemple, dans le récit de naissance de Jésus, il y a toutes sortes de choses de merveilleux qui arrivent là, aux différents épisodes de la vie, des exploits particuliers. Donc, les récits de miracles, ça appartient à un genre littéraire ou à un langage particulier. C'est pas pour nous décrire quelque chose exactement comme ça s'est passé, nécessairement. C'est pour nous montrer l'importance de ce qui se passe, là, du message à passer. L'important, ce n'est pas de chercher dans les détails du contenu extraordinaire, mais plutôt, c'est quoi le sens que l'auteur veut essayer de mettre en valeur. Puis chaque récit de miracle, il faut donc essayer de le décrypter pour essayer de trouver c'est quoi son sens. Alors, on regarde les images, les symboles utilisés. Par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, Jésus va dire « Allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue. » Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans ce texte-là, Jésus cite un texte d'Isaïe qui annonce les signes qui vont marquer la venue du Messie. Jésus ne fait pas des miracles pour épater la galerie, là. Ses gestes sont là pour interpeller puis inviter les témoins à prendre position, à dire « oui, voilà, c'est le temps du Messie qui arrive, c'est ici, c'est maintenant ». Donc, si l'évangéliste qui écrit ça, éprouve le besoin de faire des mises en scène plus spectaculaires qui vont raconter ses guérisons, tout ça, c'est pour dire au lecteur, attention, Dieu y est à l'œuvre ici, en Jésus. Finalement, le dernier volet de la question qu'on m'a posée, et nous aujourd'hui, par rapport au miracle, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Bien, on peut ajouter que cette œuvre de Jésus, ça se poursuit aujourd'hui à travers tous ceux et celles qui ont pris le flambeau, qui par leurs actions aujourd'hui remettent les gens debout, aident les aveugles à voir, s'occupe des lépreux, des sidéens, redonne la dignité aux plus pauvres, et il y en a des plus pauvres dans le monde, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui essaient de les aider et qui se relèvent. Et le fait que l'action de Jésus se poursuive aujourd'hui à travers ces personnes-là, ça tient du miracle quant à moi. Puis l'esprit du ressuscité finit pas de travailler encore dans notre monde, peut-être d'une façon qui nous échappe parfois. Mais merci beaucoup à René pour cette question très intéressante. J'espère que ma réponse n'a pas été trop longue. En tout cas, moi, je pense que ça valait la peine de s'y attarder. Pour nous soumettre d'autres questions, contactez-nous. C'est auditoire@radiovm.com. Dans quelques instants, vous allez voir un personnage fort intriguant, le Nuvite de l'Évangile de Marc. Thank you. S'il y a un élément d'insolite dans la Bible, c'est celui qu'on va aborder. Et pourtant, le détail, apparemment inutile, a été recopié à la main par des générations de copistes pour qu'il nous parvienne à nous 2000 ans plus tard. Donc, prêtez attention aux deux derniers versets du récit. C'est l'arrestation de Jésus, telle qu'elle est racontée par l'Évangile de Marc. C'est chapitre 14, des versets 43 à 52. Alors, on va entendre ça. Et surtout, comme je vous ai dit, portez attention à la fin.
Au même instant, quand il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit « Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit « Comme pour un hors la loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. » Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu.
Les quatre évangiles racontent l'arrestation de Jésus. Marc, lui, est le seul à raconter l'incident d'un homme nu qui s'enfuit. Pourquoi rapporter ce détail qui me semble assez bizarre? Il y a diverses interprétations. Certains biblistes y voient une anecdote qui pourrait avoir un fondement historique. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui serait vrai, qui se serait historiquement passé. Alors, pourquoi on se dit ça? Bien, c'est qu'un élément aussi incongru aurait difficilement pu être inventé. Il concerne peut-être un membre de la communauté chrétienne de Jérusalem qui aurait vécu cette drôle d'expérience-là et l'aurait mis par écrit ou l'aurait transmis à Marc qui l'aurait mis par écrit. Une hypothèse qui est retransmise par beaucoup de commentateurs, c'est que depuis longtemps, on a vu dans cet épisode une espèce de détail autobiographique. Le premier, ça serait Saint Grégoire le Grand, qui était pape aux alentours de 590 à 604. Ça semblerait être lui le premier qui affirme qu'on peut lire dans cette histoire rocambolesque que c'est l'auteur même qui écrit son anecdote. C'est qu'elle a été vécue par Marc, celui qui raconte ça. Plusieurs commentateurs par la suite ont adapté cette interprétation-là et nous l'ont transmis. Mais malheureusement, ultimement, il n'y a rien qui nous permet de dire que c'est bel et bien Marc qui a assisté à l'arrestation de Jésus et qui se soit enfui tout nu. On ne le sait pas. Il n'y a rien qui nous indique ça, autre l'affirmation de Saint Grégoire qui dit que ça serait fort possiblement lui. D'autres commentateurs plus modernes soulignent que le caractère si insolite de cet événement est un indice qu'il y a probablement un événement réel derrière ça. On pourrait dire qu'une histoire comme ça, ça ne s'invente pas. Mais ultimement, il n'y a rien qui prouve l'historicité de cette anecdote-là. Enfin, une autre hypothèse, ça serait de voir ce jeune homme nu-là, dont on ne connaît pas le nom, comme un symbole. Ça serait le symbole du disciple fidèle qui essaie de suivre Jésus, son maître. Puis contrairement aux autres disciples qui se sont tout de suite enfuis, lui, il reste jusqu'à la dernière minute et il semble vouloir rester avec Jésus jusqu'au bout, mais finalement doit quitter les lieux quand on essaie de l'arrêter. Il y a certains autres auteurs qui feraient un lien avec la résurrection. Avez-vous déjà vu un autre personnage dans l'Évangile qui ressemblerait à ce jeune homme-là? Il y en a un. Le jeune homme qui a perdu son drap, on en voit un plus tard dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 5. C'est celui qui est habillé d'une robe blanche. Alors, le mot pour le tissu en grec, c'est le même mot. Et on précise que c'est un jeune homme dans les deux qui annonce la résurrection à la fin de l'Évangile de Marc. Ce jeune homme acquiert alors une fonction plus symbolique qu'historique. Au chapitre 14, le récit qu'on a lu tout à l'heure, c'est le représentant des échecs des disciples qui essayent de suivre Jésus jusqu'au bout, mais qui ne sont pas capables. Et son retour au chapitre 16, en robe blanche, favoriserait une sorte de réparation de l'image des disciples avec la résurrection de Jésus. Cette interprétation-là pourrait permettre de faire une allusion au baptême. En effet, dans certaines églises anciennes, lors de la veillée pascale, les néophytes se dénudaient pour s'immerger nus dans l'eau et être baptisés. Puis le baptême, c'est le symbole du passage de la mort à la vie. Puis à leur sortie de l'eau, les célébrants leur donnaient un nouveau vêtement blanc, symbole de la vie et encore une fois de la résurrection. Vous écoutez les récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Nous abordons aujourd'hui le récit de l'arrestation de Jésus selon l'Évangile de Marc parce qu'on y a remarqué un élément franchement bizarre. Un jeune homme nu qui se sauve en courant. On a le temps de le faire, alors je vous relis l'histoire. Et pendant ce temps-là, essayez de voir ce que ce récit peut nous donner comme réflexion pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on lit ça. Là. Pourquoi est-ce qu'on lit ça? Qu'est-ce que ça nous amène à penser? Alors, je vous relis le récit. Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des douze, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit, Rabbi, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit, « comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Et c'est ici que ça commence à être intéressant. « Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. » C'est Marc, chapitre 14, versets 43 à 52. Dans mes recherches, j'ai trouvé dans un livre de Éliane Cuvillier, un exégète, un commentaire sur l'Évangile de Marc qui propose une interprétation moderne à notre élément insolite qui semble assez intéressant. Cet auteur propose que ce récit nous aide à comprendre que c'est nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, qui sommes mis à nu par l'Évangile. Après avoir découvert le parcours de Jésus, écouté ses discours, vu ses miracles, on commence à croire qu'il est un grand maître et même peut-être le Messie, et tout d'un coup, lors de son arrestation, on perd comme toutes nos certitudes préalables. Lui qu'on croit être celui qu'on attendait, ben il est arrêté et nos espoirs sont comme perdus. Nous voici nus, en détresse, au seuil de la mort, de celui qu'on avait... On pensait que c'était lui le sauveur, et non. C'est quand même intéressant de voir que nous aussi sommes mis à nu par cette expérience-là. Et peut-être que ce personnage nous représente. Honnêtement, pour ma part, je crois qu'aucune des hypothèses qu'on a avancées là, pour essayer d'expliquer ça permet vraiment une explication complète de la présence de ce jeune homme nu. On a parlé que c'était peut-être un événement historique, peut-être que c'était autobiographique, que dans le fond que c'était Marc qui s'était enfui comme ça, ou que c'était un symbole à associer au jeune homme vêtu d'un drap sur le bord du tombeau qui représentait alors la résurrection, ou même, là on vient juste de parler, que ça pourrait nous représenter nous-mêmes, notre propre nudité face au fait qu'on comprend plus puis qu'on a perdu toutes nos certitudes. Mais franchement, aucune de ces hypothèses ne me satisfait pleinement. Pour une fois, je vous l'accorde, c'est bel et bien un élément qui me semble vraiment insolite. Mais il reste utile quand même, parce que ce récit souligne que tout le monde a fui lors de l'arrestation de Jésus. Il ne reste plus un chat. La dernière personne qui restait est partie, même nue. L'un des disciples qui avait tellement peur de se faire arrêter a abandonné son vêtement pour échapper aux gardes. Alors, ce petit détail insolite met l'accent sur la solitude de Jésus, alors que tout le monde l'a abandonné. En cette fin d'émission, je vous rappelle que vous retrouverez d'autres récits insolites dans « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » aux éditions Novalis et Mediapole. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, c'est auditoire@radiovm.com. Saviez-vous comment est mort Judas? Oui, on connaît bien cette histoire, mais saviez-vous que dans la Bible, il y a au moins deux récits qui racontent sa mort et qui le font de façon très différente? Et en plus, il y a un père de l'Église dans les premiers siècles qui nous raconte une troisième tradition qui est encore, bon, honnêtement, là, est encore plus dégueulasse, plus horrible que les deux autres. Donc, cœur sensible, s'abstenir peut-être pour la prochaine émission, parce qu'on va décrire les trois morts de Judas. Vous allez voir que, oui, c'est un petit peu spécial, mais c'est très intéressant quand même. Alors, revenez-nous pour ça. Merci à Alain Primo à la technique, Marie Laferrière aux lectures bibliques, et surtout, merci à vous tous et toutes pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine!